Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Chers lecteurs et auditeurs, ou plutôt, devrais-je dire, chères lectrices et auditrices, bonjour, Lecture par tous vous retrouve. Oui, alors on devrait dire lectrice d'ailleurs, parce que les statistiques et les études nous disent qu'il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans une rencontre littéraire. En général, on a 75% de femmes et un quart d'hommes, quelque chose comme ça, ou deux tiers, un tiers peut-être. Voilà, mais il y a généralement une majorité de femmes. Et puis, vous le savez, le 8 mars, hein, on en parle un petit peu quand même, Journée mondiale des femmes, le 8 mars, un jour dans une année bissextile. Ça veut dire que les 365 autres journées ne sont pas les journées des femmes. Ce sont des journées pour les hommes, alors. Hein, il semblerait. Alors, eh bien, alors on va parler de littérature au féminin avec Hélène Honorat, elle-même, alors, écrivaine, auteure, autrice, auteuse, auteuresse, comment il faut dire.
Bonjour Hélène Honorat. Auteure, bonjour Marc, c'est très bien. Auteure.
Auteure, avec juste, on rajoute juste un E voilà. À la fin. On va éviter auteuse ou autiste, qui pourrait faire penser à d'autres choses.
Comme le fait mon éditeur, auteur, c'est bien.
Bien, voilà. Écrivaine, non, ça...
C'est moins bien.
Ça sonne moins bien. Après, c'est une question d'habitude, je crois. Puis comment ça sonne aux oreilles. Et le terme qu'a officiellement encouragé l'Académie, c'est autrice. Hein, cela. Oui, j'avais lu un livre d'une Eliane Viennot, je crois, elle s'appelle, qui avait écrit le non, le féminin ne l'emporte pas sur le... Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Pardon, ouh là là là là, quelle bourde. Le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et je crois qu'elle avait repéré que dans l'histoire de la langue française, le mot autrice avait déjà été utilisé et qu'il y avait une réaction de ces messieurs de l'Académie qui considéraient que ce terme-là ne pouvait pas avoir de féminin. C'était impossible. Eh bien si, il peut, et on va vous parler d'auteurs qui... Alors, est-ce qu'elles écrivent au féminin? J'en sais rien. En tout cas, ce sont des femmes qui écrivent. Alors, on en a quelques livres sur la table de ces auteurs-là. On va vous en parler, tout simplement. Alors, Hélène, par quel livre souhaitais-tu commencer ?
Par Sophie d'Ivry, « Quand le diable sortit de la salle de bain ». C'est un roman improvisé, interruptif et pas sérieux, dit l'auteur ou l'autrice.
Un roman interruptif, je me demande bien ce que ça peut être. En tout cas, pas sérieux, ça va, ça je comprends.
Interrompu par divers incidents ou événements au fur et à mesure de l'écriture, parce que la narratrice essaie d'écrire un roman. Mais elle est au chômage, elle s'est retrouvée pauvre. Son appartement fait 12 mètres carrés au lieu de 90 précédemment. Et son revenu a été divisé par 3. Parce que, comme dit sa mère, elle veut se consacrer à cette fichue littérature. « Ah, ma fille !» s'exclame au gré à ma mère. « Je ne te savais pas si pauvre. Il faut que j'apprenne ça dans tes livres. Si j'avais su, jamais je ne t'aurais laissé partir te consacrer à cette fichue littérature. »« Ton appartement ?» continue Nia, maman. « Ceci n'est pas un appartement. Un studio, une studinette, une tente, une cabane, un refuge, une chambre à la rigueur. Mais un appartement, non. » Dans un appartement, il y aurait des rideaux. Dans un appartement, il y aurait des pots de confiture en haut d'une étagère. Il y aurait un programme télé sur la table basse. Il y aurait des biscuits apéritifs au cas où des amis te rendraient visite. Et il y aurait un service de table. Donc, une écriture très inventive, des mots-valises. S'exclame, maugréa, ma mère, en un seul mot, bien sûr, le croisement de s'exclamer et de maugréer. Et continue, nia, maman, parce que maman nie que 12 mètres carrés, ça puisse être un appartement.
Alors, ce qui est en même temps amusant ou désespérant, c'est que la mère arrive avec un modèle très domestique, très... faut que la femme entretienne bien sa maison, son appartement.
Absolument. En et si elle n'a pas de quoi recevoir quatre personnes avec un service assorti, tout est fini.
C'est la fin du monde.
Voilà, même les jeunes femmes les plus artistes achètent ça chez un potier ariégeois. Un service de table complet.
Ariégeois, surtout ariégeois.
Ariégeois, absolument. Mais Sophie Divry est née à Montpellier. Elle habite Lyon, aux dernières nouvelles.
D'accord.
Mais elle est née à Montpellier.
Mais alors, donc, il faut se méfier, pas de potiers aveyronnais, hein, des potiers ariégeois. Retenez bien, hein, mesdames, hein, si vous voulez faire bonne figure, voilà ce qu'il faut faire.
Un service de table complet, grandes assiettes, petites assiettes, assiettes à soupe et assiettes à dessert. Quand tu auras un service de table digne de ce nom, tu auras peut-être le droit d'écrire le mot « appartement ».
On voit l'humour. Alors, je ne sais pas si... est-ce qu'on le prendrait avec le même sourire si c'était un homme qui l'écrivait, si on savait que c'était un homme qui écrivait cela ?
Peut-être, mais je pense que la mère n'aurait peut-être pas les mêmes critiques à l'égard de son fils qu'à l'égard de sa fille.
Ah, si c'était son fils, oui. Non, mais je pensais voilà. Du côté de l'écrivaine, non, pardon, de l'auteur, pas du côté des narratrices, en l'occurrence. Hein. Alors, donc, c'est Sophie Divry, oui, en effet, c'est, je comprends le côté pas sérieux, mais en fait, si, pour moi, ce sont des choses très sérieuses, mais avec un ton... un humour qui est tout à fait agréable.
C'est ce qu'elle dit par ailleurs. Elle dit le chômage n'est pas drôle, mais la littérature est une fête. Donc, comment faire pour tenir 10 jours avec 40 euros ? Il lui reste 40 euros à la narratrice. Comment faire, ou plutôt comment non faire ? Alors ici, petit clin d'œil à Melville, à Bartleby, j'aimerais mieux ne pas. Mais il ne s'agit pas de ne pas faire comme chez Melville, là, il s'agit du non-faire par faute de moyens matériels. Comment faire, ou plutôt comment non faire ? Non acheter, non sortir, non vouloir, non métro, non bus, non shopping, non dessert, non viande, non bière, non marché, non 5 fruits et légumes frais, en un seul mot, 5 fruits et légumes frais, non café, non imprévu, non nouvelle facture, non nouvelle charge. Ces pensées se refermaient sur moi jusqu'à bloquer mes poumons dans une non-respiration. C'est tout à fait d'actualité avec les problèmes respiratoires et pandémiques.
Alors, voilà. Donc, alors, Sophie Divry, on va donner l'éditeur. Puis, il y a un essai aussi dont tu voulais nous parler, je crois.
Oui, du même auteur. Alors, l'éditeur, c'est la collection Notabilia et l'édition Noir sur Blanc.
D'accord, Noir sur Blanc, oui, qui est un éditeur suisse, si je ne me trompe, qui a publié notamment Olga Tokarczuk, une autre auteure qui a eu un prix Nobel récemment. Alors, quelques mots sur l'essai aussi.
Alors avant de passer à l'essai...
Encore un petit extrait.
Je veux te taquiner un peu parce que... elle est très inventive au niveau du vocabulaire comme au niveau de la mise en page et de la graphie. Et elle parsème, ou du moins son démon, le diable qui sort de la salle de bain, parsème le texte d'un certain nombre d'effets, d'écriture en caractère gras et de calligramme. Alors je te laisse déchiffrer celui-ci et nous dire ce que ça t'évoque.
Non commentaire, je crois qu'il est assez clair.
Oui, mais pas pour les auditeurs.
Pas pour les auditeurs. Eh bien, nous avons visiblement un sexe dressé qui se soulage, voilà. Et le texte est aussi explicite. Hein. Ah, ah, ah, ah, ah, je suis le diable, je dessine des bites partout, partout, et quand je veux. Voilà, même avec des lettres.
Voilà.
des calligrammes. Je ne sais pas si Apollinaire n'aurait pas désavoué lui qui était qui aimait beaucoup les calligrammes et qui a quand même écrit un texte qui s'appelle Les 100 000 verges. Donc,
11 000 verges. Toujours l'amplification.
Ah,
et puis...
voilà, je me suis trompé dans le compte. Pardon.
L'amplification masculine.
Ça doit être
11 000, monsieur.
11 000, ça doit être cela. Alors, elle a aussi écrit un essai, Sophie d'Ivry.
Oui, qui s'appelle « Rouvrir le roman » et dans lequel elle théorise un petit peu ce qu'elle a fait avec « Quand le diable sorti de la salle de bain ». Donc ça relève de la recherche en littérature, mais ça prône effectivement un roman qui ne s'interdit rien. Et elle dit que elle le dit dans « Quand le diable », etc. Elle qui a grandi sous l'influence d'une littérature blanche et plate, c'est évidemment une allusion au nouveau roman, elle en arrive à une littérature gondolée. Et effectivement, dans « Quand le diable, on se gondole » et dans « Rouvrir le roman », on voit un petit peu son avis sur les façons de réinventer le roman, la graphie, la mise en page. Elle parle du style, elle parle des métaphores et elle parle de la mort supposée du passé simple qui, en fait, n'est pas mort du tout et qui suffit, même s'il est mort, de ressusciter.
Le passé simple, oui, c'est vrai que c'est un temps qu'on n'utilise pas beaucoup dans la langue parlée, en tout cas.
À l'oral, oui.
À l'oral, c'est assez rare. Et il a toujours, dès qu'on l'utilise à l'écrit, il a un côté très châtié, très...
Oui,
une recherche d'élégance, de préciosité un petit peu.
Elle cite un auteur qui dit qu'on ne peut plus utiliser le passé simple sans être ridicule et sans rire, mais c'est faux. D'ailleurs, c'est le temps des contes, c'est le temps du récit, et à l'écrit, il est tout à fait légitime.
Il fut une fois, nous utilisâmes le passé simple.
Et dans
et nous continuâmes.
Oui, et dans des langues comme l'italien, l'espagnol, l'anglais.
Il domine sur les autres temps du passé. Nous, on a mis le passé composé partout.
Voilà.
L'espagnol, beaucoup moins, par exemple.
Voilà.
Alors, ça ne s'appelle pas passé simple, mais l'équivalent du passé simple.
Je suis mal placé pour en parler parce que quand j'ai soumis N'oublie pas Irma à mon éditeur, il y avait une suggestion. Il m'a dit « Pourquoi ne pas mettre le premier chapitre au passé simple ?» Et j'ai dit « Jamais de la vie !» Et pourtant, j'adore le passé simple, mais ça ne s'imposait pas à ce moment-là et il en est convenu.
Alors, autre auteur dont tu voulais nous parler, d'auteur que certains lecteurs montpelliérains ont pu rencontrer récemment à la librairie La Cavale, qui était venue il y a quelques jours de cela à La Cavale. Et il s'agit, alors le titre là aussi, il va carrément, si je puis dire, « Les couilles sur la table ». Oui, carrément.
Oui, parce que c'était le titre du podcast de Victoire Tuallion. Donc le livre porte le même titre que son podcast et pendant 2 ans, elle s'est entretenue, 40 minutes chaque fois à peu près, avec des spécialistes d'une question liée à la masculinité. Donc des universitaires, des artistes, des chercheurs et elle est féministe et ce n'est pas un pamphlet contre une entité abstraite qui s'appellerait les hommes. C'est un bouquin très bien documenté, très intéressant et qui donne des exemples concrets.
Voilà, pas plus.
Alors, je peux t'en donner
un exemple concret.
Alors, un ou deux exemples concrets. Par exemple, les bureaux climatisés en été, c'est un exemple qui sort d'une étude réalisée, d'ailleurs pas en France, je crois. Tout est conçu dans la ville et dans les entreprises comme si l'homme était le standard. Et dans les bureaux climatisés, on s'est réglé sur le métabolisme des hommes. Ce qui fait qu'en été, dans les bureaux climatisés, les femmes grelottent parce qu'elles ont un métabolisme différent et donc la température est 5 degrés en moyenne trop basse pour les femmes. Mais c'est réglé sur le métabolisme masculin. Autre exemple, le téléphone portable. Alors, une main d'homme, c'est une fois virgule deux plus grande qu'une main de femme. Mais tout est fait pour le standard de la main masculine. et les derniers téléphones, les derniers Apple, etc. Et beaucoup plus intéressant encore, quand Apple, en 2011, a lancé Siri, l'assistant intelligent. Siri pouvait vous trouver des prostituées et du Viagra, mais pas de centre d'avortement. Siri pouvait vous aider si vous aviez une crise cardiaque. Mais si vous lui disiez « Siri, j'ai été violée », il répondait « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par « j'ai été violée ». Et il ne comprenait pas non plus si vous disiez « mon mari me bat » ni « je suis victime de violences conjugales ».
Quand on entend ça, on se dit « c'est inventé ou c'est pour de vrai ?»
Pas du tout, c'est pour de vrai.
C'est pour de vrai et ça semble tellement énorme qu'on a du mal à y croire.
Toutes les références sont dans le livre de Victoire, Les couilles sur la table.
Eh bien, il y a du chemin à faire, comme dirait l'autre, on n'y est pas. Hein. Je ne sais pas où on va, mais en tout cas, on n'est pas encore arrivé. Hein. On a du chemin à faire.
Il y a matière à réflexion et matière à action dans le livre de Victoire Tuallion.
Voilà, j'ai envie de dire, il faut prendre un peu de recul et se dire, nous sommes en 2020, donc il y a environ un siècle, les suffragettes occupaient la scène, occupaient la rue, essayaient d'occuper la rue. Voilà, il s'est passé des choses depuis. Hein. Dans les années 70, même l'UNESCO avait fait une année internationale des femmes. Aujourd'hui, on a une journée mondiale des femmes, s'il vous plaît. Et pour autant...
Les hommes ont toujours, d'après les statistiques de l'INSEE, 3h30 de plus de temps libre par semaine que les femmes.
Rien que ça, voilà. Comme quoi, il y a des inégalités, des injustices qui perdurent. Alors, est-ce que c'est un enracinement culturel de cela ? J'en sais rien. Je crois que la culture y est pour beaucoup. Hein, la culture étant ce qui fait qu'un comportement social nous paraît naturel et on oublie que c'est une construction sociale.
Tout à fait.
Et que, voilà, eh bien, l'inconscient masculin est bourré de... mauvais comportement, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, moi, j'y avais d'autres auteurs que j'avais repérés. Alors, quand on s'est posé la question de faire ça, je me suis dit, oui, pourquoi pas faire une émission sur les auteurs féminins. Et puis, et je me suis dit, mais ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas, non pas parce que je n'en lis pas, mais parce que je n'y fais pas attention. Est-ce que c'est un ou une
sexe de l'auteur
peu m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est le texte. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, oui, il y a quand même quelques auteurs dont j'ai trouvé des textes de grande qualité. Mais je pourrais... d'auteurs, mais pour moi, souvent, je dis le masculin, c'est pas du masculin. On oublie que dans le latin, c'est le neutre et le masculin étaient pareils. J'ai envie de dire, c'est le neutre qui est venu occuper la place, quand on ne sait pas trop, on met au neutre. Non, on ne met pas au masculin. En fait, on met au neutre. Moi, je considère un petit peu cela. Donc, auteur, c'est neutre, on va dire. Ça n'a pas de genre.
Si tu veux.
Oui, non, mais voilà. Hein, c'est ma perception un petit peu de ça. Donc, voilà, auteur, là, on met en évidence le genre. Alors,
oui, mais c'est pourquoi le mot auteur, je trouve, va bien, parce que ça peut être effectivement auteur.
Oui, si on le considère comme quelque chose de neutre, bon, c'est vrai que après, du côté de l'orthographe, il est marqué du côté du masculin. Quand on a pianiste, par exemple, dans la musique, on ne sait pas. Et c'est très bien. Hein, on est pianiste. On s'en fiche, c'est pianiste.
Artiste.
Ça s'écrit pareil. Alors, voilà, une auteure grecque. Maria Efstathiadi.
Bravo.
Hein, voilà. Peut-être si Michel Volkovitch était là, il me critiquerait sur la prononciation du nom. Un volume qui est paru aux éditions Kidam, qui s'appelle Hôtel Rouge. Alors ça prend des allures de souvenirs d'enfance, hein, dans une famille un peu bourgeoise. Mais sauf que les souvenirs d'enfance, c'est pas vraiment une narratrice, c'est plutôt une forme de dialogue. Alors c'est un texte qui pourrait très bien être théâtralisé, parce que tout est écrit sous forme de dialogue. Et les personnages sont assez étonnants, parce qu'il y a la voix, le souffle, il y a aussi les oreilleux, on avait encore un mot valise, c'est oreilles et les oreilles et les yeux à la fois.
Ah, d'accord.
Et ce sont des réflexions, des échanges, oui, sur le souvenir, sur ce qu'on voudrait raconter. C'est peut-être un livre sur la littérature et sur les souvenirs et sur ce qu'on peut raconter. Et la place du silence, c'est aussi un livre qui est important sur le silence. Je vous lis juste quelques petits extraits comme ça que j'ai cochés au fil de ma lecture. Voilà, dialogue entre la voix et le souffle, donc la voix. Les silences aussi sont des mots, le souffle. Comment ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire du silence? La voix. Plein de choses, l'exprimer, l'écrire, l'entendre, écouter ce qu'il dit, ce qu'il est, d'où il vient, à qui il appartient. L'ouvrir comme on ouvre une lettre, une porte, une maison. Et par moments, tout devient plus net, plus lisse, plus vaste, plus...
Faut une silence. Suspension
sur un silence, bien entendu. Ça s'imposait, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Voilà. Un petit peu plus loin, toujours ce dialogue entre la voix et le souffle. Donc le souffle. Mais qu'est-ce qui t'a pris subitement? La voix. Il m'a pris que tout ça, ce sont des inventions pour conte de fées, alors que les vrais souvenirs d'enfance, ça n'a rien d'un rêve. C'est tout le contraire. Le souffle. Un cauchemar, tu veux dire? Non, non, un village lointain rempli de tours et de détours. Voilà ce que c'est. Sans aucune carte pour t'orienter. Une imbrication de choses dont on ne parle pas. Une imbrication de nuit. Voilà, il y a un registre, je trouve, qui est très juste, quoi, qui nous dit un peu nous parle de cette mémoire. Et puis, il y a un style.
Oui, aussi, des images. Donc, le contraire du rêve, ça n'est pas le cauchemar, c'est la réalité présente des souvenirs d'enfance.
Voilà, et puis c'est une réalité perdue, hein, qu'on essaye de reconstruire. Hein. Et puis, la voix qui dit à un moment dans un des échanges, tu sais, j'ai appris très tard, vraiment très tard, qu'il y a des moments où le silence est la seule parole supportable et surtout la seule réponse à des questions qu'on étouffe.
Alors tu vois, là, j'ai appris très tard, la voix parle au passé simple.
La voix parle au passé simple.
À l'oral.
À l'oral.
Retranscrit.
Voilà. Donc voilà, un livre qui ouvre comme ça un certain nombre de réflexions sur l'écriture, sur les récits que chacun peut se faire de sa vie, de sa propre vie. Et puis, moi je trouve très belle cette idée, je vous dis, c'est aussi un livre sur le silence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le silence il existe parce qu'il y a des mots, et les mots, du coup, sont compréhensibles parce qu'il y a du silence.
Comme en musique, bien sûr.
Voilà, hein, si on parlait sans jamais faire de silence, les phrases deviendraient incompréhensibles. C'est comme dans un texte qui est écrit, s'il n'y a pas de blanc entre les mots, le texte devient très, très, très difficile à lire. Ça existait à une époque, en plus.
Oui, hein, mais on a inventé...
On le voit sur certains monuments de l'époque romaine, où le texte est écrit et il n'y a aucun espace entre les mots.
Mais on a inventé le pied de mouche. Pour montrer justement qu'il y avait une coupure, qu'on changeait d'idée ou qu'on changeait de phrase, sans pour autant aller à la ligne, parce qu'à l'époque, la pierre ou le papier était trop précieux.
Ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser du blanc.
Il y avait un petit signe pour montrer que là
c'est la fin de la phrase.
Voilà, la fin de l'idée.
La fin de l'idée, des ancêtres de la ponctuation.
Voilà. Et le pied de mouche existe toujours à l'écran, tu sais, quand tu veux afficher les espaces. Et tu as ce petit signe qui ressemble à un P renversé qui s'appelle
Oui, voilà. J'apprends que ça s'appelait un pied de mouche, oui, le petit signe qui nous dit paragraphe, saut de paragraphe, des choses comme ça.
Oui.
Il y avait un autre livre que tu nous avais apporté, je crois qu'on a encore quelques minutes.
Oui, toujours d'une femme, Nicole-Lise Bernheim, qui s'appelle Chambre d'ailleurs, et qui est parue dans la petite bibliothèque Payot Voyageur. Et c'est un voyage vers l'Asie, en Asie, vu à travers les chambres dans lesquelles le couple est hébergé ou dort. Donc, il y a par exemple Raffles à Singapour. Alors, à Singapour, le couple manque de se séparer parce que lui aime Singapour et elle, pas du tout. Donc, elle parle d'incompatibilité singapourienne. Et puis, en définitive, l'hôtel Raffles, c'est un petit château blanc qui ne lui plaît pas plus que ça. Le seul endroit plaisant, c'est le jardin du Baume du Tigre, qui est vaste et rempli de statues moralisatrices peintes de couleurs éclatantes qui dégoulinent sous l'effet de la chaleur et des pluies. Mais ailleurs, en Inde, elle va dormir dans un hôtel. Ils vont dormir dans un bungalow qu'on leur attribue dans un hôtel, qu'ils demandent même dans un hôtel. Ce bungalow est habité par un rat. Et le rat n'accepte pas qu'on lui fasse concurrence dans son espace. Donc, il se manifeste la nuit. Et la narratrice dit au matin, je cherche un vêtement dans le sac. Il se fend sous ma main. La fermeture est cassée. Je regarde de plus près. La glissière a été rongée ainsi que le cuir qui la borde. Le visiteur a bien travaillé cette nuit. Alors la nuit suivante, son compagnon fabrique un piège avec du pain, mais le piège est déjoué par le rat. Et plus tard, une autre nuit, nous cherchons le cadenas fermant le sac de voyage. Disparu. Tu le retrouves dans le nid du rat qui voulait le garder avec ses trésors. Ils avaient entendu un choc sourd pendant la nuit. Et finalement, le rat gagne et il change de bungalow. Parce qu'il ne supporte pas la compétition avec ce rat qui est extrêmement intelligent. Et elle le raconte avec à la fois de la poésie et de la terreur. Et finalement, c'est le rat qui gagne.
Bien, alors ça c'est Nicole Lise Bernheim, Chambre d'ailleurs. Et c'est dans la célèbre petite bibliothèque Payot, dans une collection qui s'appelle Voyageurs. Alors, nous avons également parlé de « Les couilles sur la table », c'est le titre du livre, de Victoire Thuaillon, et ça, c'est aux éditions...
C'est Binge Audio Binge. Édition.
Voilà, donc B-I-N-G-E, voilà. Et puis, Sophie Divry, en un seul mot, c'est pas D apostrophe, hein, c'est D-I-V-R-Y. Donc, « Quand le diable sortit de la salle de bain », et puis, rouvrir leur roman. Donc, le premier, c'est un roman, en fait. Et le second, c'est...
un essai.
C'est peut-être la cuisine du roman, si je puis dire. Hein. Les recettes ou les...
Les recherches.
Les recherches, oui. Recettes, ça fait application un peu mécanique. Les recherches pour l'écriture. Voilà. Et ça, c'est aux éditions Notabilia. Et puis moi, je vous ai parlé d'une auteure grecque, Maria Efstathiadi, Hôtel Rouge, publié par Kidam Éditeur. Comme c'est un auteur grec, il faut préciser, le traducteur, c'est Anne-Laure Brizac. Voilà, j'avais aussi amené une auteure turque, Şener İlhan, L'Exil, aux éditions Galahad, ce sera pour une autre fois. Et bien voilà, c'était une émission, on va dire, de lecture par toutes. Hein, peut-être cette fois, sur quelques auteurs.
Mais pour tous.
Pour tous. Hein, tout le monde peut lire des auteurs autant que des auteurs sans E. C'est pas le problème. L'important, c'est ce qu'elles, ils nous racontent et les voyages qu'ils, elles, nous permettent de faire.
L'important, c'est la littérature.
L'important, c'est la littérature qui est du féminin. Ne l'oublions pas.
Mais il y a un dieu de la littérature, un dieu chinois de la littérature.
Ah, mais c'est en Chine, c'est une autre affaire.
D'accord.
Merci Hélène.
Merci Marc.
Bonne lecture à vous tous, chers auditrices et auditeurs. On va faire comme De Gaulle, française, français, non, auditrice, auditeur. Bonne lecture et merci Rongemaille. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.